Europe 1.
Heures, 10h. C'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Comment les humains se sont-ils adaptés depuis 3 millions d'années au changement de climat? Voilà une question intéressante pour notre avenir. Lucas Pacotte et Clotilde Chamussy vont y répondre dans un instant. Je recevrai ensuite la paléo-anthropologue Sylvana Condamy qui a enquêté pendant 4 ans sur l'énigme d'Denisova, du nom de cette grotte de Sibérie où l'on a découvert les restes d'une autre espèce humaine, différente d'Homo sapiens et de Néandertal. L'homme de Denisova, elle va nous en dire plus à son sujet. Et l'on terminera l'émission avec Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, qui a retrouvé une pièce de théâtre inédite de son grand-père, qui sort aujourd'hui en bande dessinée.
Europe 1.
Lucas Pacotte et Clotilde Chamussy, bonjour.
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 Vous êtes archéologue de formation et depuis 2016, vous avez votre chaîne YouTube intitulée Passé sauvage. Et vous publiez aujourd'hui chez Robert Laffont La grande histoire du climat, un livre d'une grande actualité, puisqu'on y apprend comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années au changement climatique. Et ils ont été nombreux, hein, ces changements.
Oui, on en a. Alors il y a 9 chapitres, donc 9 crises, dont celle actuelle. Donc on peut voilà.
Par exemple, il y a entre 23 et 19 000 ans, il y a eu la période la plus froide de la dernière grande glaciation. Comment a-t-on fait pour survivre au maximum glaciaire alors qu'ici, dans l'hémisphère nord, il faisait l'été 5 à 10 degrés de moins qu'aujourd'hui et l'hiver de 15 à 25 degrés de moins. Hein.
Oui, faut imaginer qu'il y a des pingouins à Marseille, la grotte Cosquer, dont la réplique est visitable, est un bon témoignage. On se rend compte que, paradoxalement, c'est une période de grande ingéniosité. Les humains vont inventer des choses qui vont, comme je sais pas, l'aiguille à chat qui va perdurer jusqu'au Moyen Âge,
parce qu'il faut, permet de coudre. Hein.
Oui, voilà, qui permet de coudre. Le propulseur qui permet de chasser.
Un certain nombre d'inventions comme ça qui vont manifester peut-être. À la fois des replis dans certaines régions, mais du coup qui sont l'occasion de rencontres entre des populations qui pouvaient être peut-être plus dispersées ou qui se dispersaient une partie de l'année et qui se retrouvaient à d'autres endroits. Il y a des régions que les archéologues nomment des régions refuges, comme le sud-ouest de la France. Vous pensez à la région du Périgord, là où il y a toutes ces grottes ornées dont certaines peuvent se visiter encore.
Il y a l'Italie, il y a les Balkans, l'Espagne, voilà. Il y a Solutré.
Effectivement, c'est la période du Solutréen. Voilà, donc c'est un site de Saône-et-Loire, un petit peu en périphérie de ces grandes régions, mais des populations qui restent aussi très mobiles, qui s'adaptent en se déplaçant, en allant chercher les ressources là où elles sont, et qui se spécialisent aussi dans la chasse aux rennes.
Oui, forcément, ouais. Vu le climat. Alors, après le maximum glaciaire, il y a le réchauffement holocène entre 12 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Les calottes glaciaires fondent, les océans remontent, ça correspond au début de la révolution néolithique. Est-ce que c'est le climat qui a poussé les êtres humains à inventer l'agriculture et à se sédentariser?
C'est toute la question pour les archéologues, c'est de savoir si c'est un coup de chaud, un coup de froid, ou justement cette holocène dans lequel on est toujours, qui a permis vraiment de se lancer dans l'aventure de l'agriculture.
C'est vrai que quand on regarde la chronologie pure et simple, on voit que les révolutions néolithiques, donc qui se sont produites sur différents continents, que ce soit le Proche-Orient, mais aussi la Chine, mais aussi la Nouvelle-Guinée, le Pérou, le Mexique, elles ont eu lieu finalement dans une fenêtre chronologique qui est assez courte, puisque ça se passe en quelques millénaires sur plein de continents. Et depuis longtemps, les archéologues pensait, ou en tout cas supposait, que le climat devait avoir quelque chose à voir là-dedans. Gordon Child, qui est un archéologue australien qui a popularisé l'expression de révolution néolithique qu'on connaît tous maintenant, lui, il faisait vraiment du climat un événement déclencheur. Ce qu'on voit, et ce que l'archéologie montre aujourd'hui, c'est que c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un stimulus climatique, il faut qu'il fasse un petit peu plus chaud, qu'on soit plus dans cette période glaciaire très très extrême, pour qu'il puisse y avoir des céréales sauvages, qu'on puisse les domestiquer, qu'on puisse avoir un mode de vie agricole. Mais c'est très loin d'être le seul facteur et la seule condition, on va dire, pour qu'il y ait l'émergence de l'agriculture. Il faut qu'il y ait des conditions sociales, il faut qu'il y ait probablement une révolution des mentalités, il faut qu'il y ait des expériences de sédentarité qui existent depuis longtemps. Donc c'est un ensemble de causes et qu'on explore effectivement dans ce livre.
Néanmoins, le réchauffement holocène, ça va changer évidemment la vie des êtres humains sur cette planète. En 3500 avant Jésus-Christ, Le Sahara, qui était naguère encore une vaste étendue de prairies et de steppes, dotée de grands lacs et de rivières, on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, hein. Pourtant c'était comme ça le Sahara, et bien en 3500 avant Jésus-Christ, il commence à se désertifier. Alors comment les populations se sont-elles adaptées lorsque la situation est devenue intenable? Parce que là aussi la question se pose, on parle de régions qui risquent de se désertifier à leur tour sous l'effet de l'actuel réchauffement climatique.
Bah, on constate des migrations, notamment de ces populations de bergers du Sahara, donc des populations sahariennes qui arrivent en masse en Égypte. La désertification du Sahara, c'est une bénédiction pour l'Égypte. L'Égypte, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'apprend à l'école, n'aurait jamais été cette grande civilisation sans un changement climatique très néfaste pour les voisins. Donc c'est fou, parce que ce réchauffement, en fait, calme le Nil, qui était un fleuve chaotique, dont il était très difficile d'administrer. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce réchauffement, on se rend compte que l'écriture arrive, les taxes arrivent, la construction des pyramides aussi s'enchaîne. Il y a vraiment une administration de l'eau, quoi.
L'essor de la civilisation égyptienne, ce serait dû à ça?
Bah, c'est peut-être un petit peu simple de voir ça comme un système de vases communicants, mais peut-être qu'on peut prendre cette image-là, c'est-à-dire qu'il faut imaginer effectivement un Sahara vert, plusieurs millions de kilomètres carrés de prairies, de rivières, comme vous l'avez décrit, qui sont habitées par, alors au départ des pêcheurs, après des éleveurs, c'est d'abord les bœufs, et puis quand il se met à faire de plus en plus sec, on va plutôt privilégier les chèvres et les moutons, et puis quand il se fait encore plus sec, on va se replier sur les points hauts qui captent un petit peu plus de pluie, ou vers les oasis, et puis quand la situation est intenable, effectivement, il faut migrer, donc certains vont vers les côtes, certains vont vers le sud, vers le Sahel, mais une bonne partie de cette population d'éleveurs de l'est du Sahara ont vraisemblablement effectivement convergé vers la vallée du Nil. Ça, les archéologues le voient bien avec des échanges de matières premières de l'est du Sahara qui sont connues dans la vallée du Nil, donc ils devaient peut-être fréquenter cette vallée de manière saisonnière et puis finir par s'y établir, parce que la vallée du Nil, comme l'a dit Clotilde, elle devient effectivement fertile, elle devient agréable et plus un endroit dont il faut s'échapper pour fuir les inondations.
On fait une pause et on y revient tout de suite après, parce qu'il n'y a pas que des civilisations qui connaissent leur essor grâce au climat, il y a aussi celles qui s'effondrent, comme la Grèce, on va le voir tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Lucas Pacotte et Clotilde Chamussy qui publient La grande histoire du climat, comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années au changement climatique et au changement climatique au pluriel, hein, puisqu'on est en train de le voir, il y en a eu beaucoup. Alors en 1200 avant Jésus-Christ, par exemple, une violente sécheresse fait basculer la Grèce. Toute une civilisation s'effondre, des villes entières sont détruites et abandonnées par leurs habitants, hein.
Oui, on peut citer dans les plus connus Mycène, Tirinthe, Troie, sont des villes qui sont évoquées dans l'Iliade, dans l'Odyssée. Donc ça, c'est l'archéologie qui constate que des villes tombent en ruine, sont abandonnées, il y a des niveaux d'incendie dans les strates, enfin voilà, concrètement ça ressemble à ça.
Parce que la température a considérablement augmenté.
En fait, on cherche la cause et on incrimine le climat. Donc c'est vrai que nous, dans le livre, on a écrit ce chapitre un peu comme un procès, et donc Lucas, si tu veux bien te faire l'avocat.
Avec un réquisitoire, effectivement, puisque des archéologues ont incriminé le climat, ont accusé le climat d'être le responsable de ces niveaux de destruction. Et puis d'autres sont venus en défense, parce que, encore une fois, est-ce qu'une sécheresse peut brûler une ville? A priori non. C'est donc qu'il y a des révoltes, c'est donc qu'il y a peut-être des famines, peut-être qu'il y a d'autres événements politiques, sociaux, qui se greffent à ce changement climatique et qui l'accentuent et qui...
Et le climat serait une étincelle, voilà. Finalement.
Déclenche une catastrophe plus vaste. Et finalement, c'est l'un des cas où la question n'est pas si bien tranchée. On peut quand même trouver des éléments qui vont dans ce sens, et notamment l'une des dernières études les plus récentes, qui date de l'été dernier, de juillet 2023, grâce à la dendrochronologie, donc qui est l'étude des cernes de croissance des arbres et qui permet de dater très précisément des événements à l'année près, en fait, même quand ils sont aussi vieux que ceux dont on parle, eh bien, on montrait que aux alentours de 1200, donc qui est justement la date de ces destructions de palais, dans les années 1198 à 1196, donc c'est très précis, eh bien, trois sécheresses, trois années consécutives extrêmement sèches, parmi les plus sèches connues de toute une longue période qui court sur presque un millénaire. Trois sécheresses consécutives, ça veut dire l'impossibilité de récupérer la situation l'année d'après. Ça veut dire une famine qui se déclenche et probablement un effet domino, ou en tout cas, si on veut incriminer le climat, on aurait là un événement absolument parfait.
Donc des révoltes, donc des villes incendiées. De même, l'âge d'or de Rome de 200 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ pourrait être dû à des conditions climatiques exceptionnelles.
Oui, ça coïncide avec un optimum, c'est-à-dire que le soleil a une activité un peu plus forte et on le voit, il y a des figues, il y a de la vigne à des latitudes assez hautes. Et finalement, les Romains, ils vont profiter de ce climat, ils vont encore une fois savoir l'administrer. Ils vont arrêter les petites fermes perdues comme ça, ils vont faire des grandes villas, ils vont structurer l'agriculture. Et c'est ça qui marche, parce qu'on pourrait se dire tout le monde profite de cet optimum. Pourquoi les barbares, entre guillemets, ne profitent pas de ça? Bon, bah Rome a une force de frappe, c'est administrer ses campagnes. Et c'est surtout, enfin, on peut penser à l'aqueduc. L'aqueduc, c'est le symbole de Rome, et en même temps, ça témoigne vraiment de cette ressource en eau qui est parfaitement, qui circule parfaitement et qui permet de profiter du climat.
Parce que, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais qui dit optimum solaire, c'est-à-dire quelques pourcents de plus d'insolation. Du fait d'une activité solaire un petit peu plus forte à cette époque-là, dit aussi humidité. La chaleur, ça va avec l'humidité, hein, puisque ça crée de l'évaporation. C'est quelque chose qui va amener en fait de la ressource en eau, que les Romains sont experts pour exploiter. Et on le voit dans des régions, que ce soit en Turquie, que ce soit en Espagne, qui sont aujourd'hui particulièrement sèches. On voit parfois 4-5 aqueducs qui vont chercher des sources qui n'existent plus pour alimenter des villes. Donc c'est bien qu'il y a...
Ces aqueducs datent des Romains.
Absolument, oui, des aqueducs romains, il faut le préciser. Il y a aussi une source, enfin il y a plusieurs sources textuelles qui permettent de l'évoquer. Il y a par exemple un astronome grec installé à Alexandrie, Claude Ptolémée, qui fait un espèce d'almanach qui recense, lui, le temps qu'il fait à Alexandrie quand il y vit. Et le contraste est particulièrement frappant avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui du climat égyptien, où concrètement 6 mois dans l'année, il y a les chances de précipitation sont presque à 0%. Et lui, il note presque tous les mois, sauf peut-être un mois dans l'été, des bruines, des pluies, un climat plus humide qu'aujourd'hui. Et donc ces témoignages, ils ont intrigué les historiens depuis assez longtemps. Aujourd'hui, les données de l'archéologie, quand on va chercher par exemple les isotopes dans les spéléothèmes, c'est-à-dire les stalactites, les stalagmites des grottes, avec des données donc bioclimatiques, géologiques, eh bien on se rend compte que finalement, il y avait quelque chose qui s'est effectivement produit à cette époque-là, qui amenait plus de chaleur, plus d'humidité, et qui a sans doute largement favorisé la civilisation romaine.
Quelque chose qui s'est produit, c'est le petit âge glaciaire, hein, qui va de 1300 à 1850, grosso modo. Ça a été popularisé par l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, comment les Européens, à l'époque, ont-ils réagi à ce refroidissement global ?
Bah, les artistes s'en sont emparés. Voilà, les tableaux de Bruegel, ça témoigne de cette époque-là.
Oui, c'est hein, les grandes scènes de neige.
Mais c'est vrai qu'en regardant les détails, il y a des détails un peu morbides. Donc on se rend compte que c'est quand même une période difficile à vivre. Il y a beaucoup de famine. Dans le livre, on parle de la naissance du complotisme climatique, parce qu'il y a quand même 1 million de personnes qui sont condamnées pour ce motif-là. C'est-à-dire qu'en fait, il fait tellement mauvais que les villageois, les paysans sont déprimés et cherchent un bouc émissaire.
Ils brûlent des sorcières.
Notamment des femmes, pas que, hein. Il y a toutes les personnes marginalisées, hein. Ça peut être des vieillards, ça peut être des voleurs, ça peut être
des vagabonds,
tous ceux qui sont un peu déviants, mais c'est quand même quelque chose de très très impressionnant quand on prend les chiffres.
Bon, ça c'est plutôt au début, parce que si le petit âge glaciaire va jusqu'à la Révolution française, on l'incrimine d'ailleurs en partie, on dit que si les Français, s'ils connaissaient une famine à l'époque, c'était aussi à cause du petit âge glaciaire, mais on brûle plus de sorcières à ce moment-là. On coupe la tête du roi.
Oui, voilà. On a souvent aussi relié la Révolution française à des épisodes de volcanisme, notamment islandais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce petit âge glaciaire, donc, qui dure plusieurs siècles, il est à la fois à la conjonction de deux phénomènes. C'est à la fois un minimum solaire, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on a décrit juste avant pour pour l'Empire romain. Donc des périodes pendant lesquelles l'activité solaire est à son minimum, qui envoie un petit peu moins de chaleur sur la planète, et aussi de grandes éruptions volcaniques, que ce soit en Islande, que ce soit au Pérou, que ce soit en Indonésie, donc les grandes régions de volcanisme, qui envoient énormément de gaz sulfurés dans l'atmosphère et qui ont tendance aussi à refroidir le climat. Donc résultat des courses, effectivement, on a des étés pourris. On a des printemps qui sont encore couverts de neige jusqu'au mois de mai. Et dans un contexte où on ne peut pas forcément compter sur des ressources d'un empire colonial ou d'une économie mondialisée, etc., bah si la récolte a échoué deux années de suite, c'est immanquablement la famine. C'est des centaines de milliers de morts parfois en une année en France. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais c'est des cataclysmes démographiques. Et effectivement, ça peut engendrer ce genre de résurgence, de chasse aux sorcières qu'on pensait perdue dans les tréfonds du Moyen-Âge jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, dans des régions d'Europe occidentale. On va attraper des personnes et les brûler parce que la grêle est tombée sur la récolte.
Voilà, c'est pas plus mal de lire ce livre aujourd'hui, La grande histoire du climat. Ça nous évitera peut-être de réitérer. Par la suite, c'est signé Lucas Pacotte et Clotilde Chamussy. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.
Ce matin, dans C'est arrivé demain, c'est paru chez Robert Laffont.
Merci.
Et on reste dans le passé avec la paléoanthropologue Sylvana Condemi qui vient nous parler de l'homme de Denisova. Vous allez voir, en fait, l'homme de Denisova, c'est une petite fille.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Sylvana Condemi, bonjour.
Bonjour.
Paléoanthropologue, directrice de recherche au CNRS, vous publiez avec François Savatier L'énigme Denisova aux éditions Albin Michel. En 2010, on a en effet découvert dans la grotte de Denisova, en Sibérie, un petit bout de doigt d'un être humain ayant vécu il y a entre 52 000 et 76 000 ans, hein, mais d'une autre espèce, Homo sapiens ou Néandertal. On l'a appelé l'homme de Denisova, bien qu'il s'agisse en l'occurrence d'une adolescente.
D'une petite fille, oui.
Rétrospectivement, ça paraît incroyable que ce soit parti de quelque chose d'aussi minuscule, hein, l'épiphyse de la dernière phalange d'un petit doigt, et que l'on soit tombé dessus dans une grotte alors que ça ne fait que quelques millimètres. Ça paraît miraculeux, et qu'il y ait encore de l'ADN dessus au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années.
Alors c'est dû au fait qu'on a trouvé ce petit fragment d'os dans une grotte qui se trouve en Sibérie. Donc c'est la grotte de Denisova. Et à l'intérieur de ces grottes, la température ne descend jamais au-dessous de zéro. Donc l'ADN, c'est ce qui compose nos cellules, c'est notre patrimoine génétique. En principe, l'ADN ne se conserve pas. Déjà, pendant notre vie, nous avons des réparations continues de notre ADN, mais au moment de la mort, la dégradation de cette partie vivante se dégrade très très vite. Et là, c'est grâce au froid que ça a été préservé. Donc c'est vraiment miraculeux qu'on ait pu récupérer de l'ADN dans un tout petit bout d'os comme ça, et à partir de cet ADN qui était très très bien conservé, reconstruire la totalité du génome, c'est-à-dire du patrimoine génétique de cette nouvelle espèce Denisova.
Et ce sont des généticiens de Harvard qui ont séquencé le génome de Denisova, et qu'ont-ils trouvé ? Eh bien que l'ADN denisovien était plus proche de l'ADN néandertalien qu'ils ne le sont tous les deux de l'ADN d'Homo sapiens.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était vraiment une étude qui a été faite par l'université d'Harvard avec le Max Planck, et le fameux Svante Paabo qui est à l'origine, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel en 2022 de médecine pour ses découvertes. Et ils ont ensemble, parce que quand on fait une découverte aussi importante, on a besoin de quelqu'un qui la confirme avant de la publier. Et ils ont trouvé que, un, c'est le groupe frère de Néandertal, qui se sont séparés l'un de l'autre il y a 400 000 ans, et que eux-mêmes se sont séparés d'Homo sapiens il y a environ 600 000 ans, 700 000 ans. Donc on a appris d'emblée quelque chose d'extrêmement important, et qui nous a permis de mener dans le livre L'énigme Denisova cette enquête à la recherche des Denisova qu'on avait sans doute déjà trouvé au cours des fouilles, mais qu'on n'avait pas pu reconnaître.
Et depuis qu'on a retrouvé, un certain nombre de fossiles
On a retrouvé un certain nombre de fossiles qu'on avait déjà, mais qu'on avait mis dans le groupe néandertalien, dans un groupe un peu bâtard des fossiles du Pléistocène moyen, qu'on ne comprenait pas très bien. néandertaliens qui avaient des caractères néandertaliens et d'autres un peu plus sapiens. Mais aujourd'hui, grâce à cette enquête, on sait exactement qui sont les Denisoviens et on a pu retrouver des fossiles. Il y a encore beaucoup de parts d'ombre, mais on a quand même résolu un peu le puzzle.
Alors, Néandertal et Denisova sont deux frères, proches et différents à la fois. Le premier vivant en Europe et le second en Asie.
Voilà, tout à fait. Vous avez bien résumé la situation. Au fait, ils se sont séparés et il y a 400 000 ans et ils ont eu un destin différent aussi parce qu'ils vivent sur des territoires différents. Ils ont eu des adaptations environnementales différentes et alors que le territoire de Néandertal, l'Europe, est assez petit parce que au sud, il y a la Méditerranée qui bloque le déplacement nord-sud. En Asie, cet espace où vivaient les Denisoviens est très très grand. Et ils vivaient à la fois dans le froid, dans le climat tempéré, dans le climat subtropical et tropical. Donc on a des Denisoviens sur toute l'Asie, du nord au sud.
Et une équipe dont vous faisiez partie d'ailleurs, dirigée par Mathias Meyer, a montré que Denisova est d'origine africaine, comme Néandertal et Homo sapiens. Il est sorti d'Afrique et il s'est répandu en Asie. Hein.
Oui, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui est récurrente. Les espèces naissent en Afrique. Homo erectus est né en Afrique. Il est sorti d'Afrique. Il a colonisé l'Eurasie. Et l'ancêtre à la fois de Denisova et de Néandertal, qui était aussi l'ancêtre de Sapiens, est africain, Homo heidelbergensis, et c'est cet ancêtre qui a colonisé à son tour l'Eurasie.
Au fond, il y a 750 000 ans environ, une forme humaine ancestrale est sortie d'Afrique et s'est répandue en Eurasie. 400 000 ans plus tard, deux groupes en sont sortis, celui de Néandertal à l'ouest et celui de Denisova à l'est. Et il y a 150 ou 100 000 ans, un quatrième groupe, Homo sapiens, est sorti d'Afrique à son tour.
Voilà, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Néandertal a vécu en Europe et Denisova en Asie, il y a eu des contacts entre eux. À plusieurs reprises, nous avons des traces de métissage entre Néandertal et Denisova. Et ensuite, quand Sapiens va sortir d'Afrique, il va se métisser à la fois avec Denisova et à la fois avec Néandertal.
Au fond, toute l'histoire de l'humanité, c'est une suite de métissage, parce que ça commence dès les premiers...
Tout à fait. Vous résumez très très bien la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde séparé. Les humains, c'est-à-dire c'est une histoire longue dont on parle. Donc les humains, quand ils sortent d'Afrique, ils évoluent séparément, mais de proche en proche, ils se rencontrent, ils se mélangent, ils ont des petits ensemble, ils innovent ensemble, parfois ils sont séparés pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflit dans l'humanité, mais il y a eu aussi des rencontres, des métissages, des populations mixtes du point de vue culturel et du point de vue génétique.
On fait une pause, Sylvain Academy, et on y revient tout de suite à cet homme de Denisova qui, en l'occurrence, je le rappelle, en tout cas pour la première qu'on a trouvée, était une petite fille.
Tout à fait.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec la célèbre paléoanthropologue Sylvana Condemi qui publie avec François Savatier l'énigme Denisova aux éditions Albin Michel. Denisova peuplait jadis tout l'Extrême-Orient, vous venez de nous le dire. Alors certains Asiatiques ont encore aujourd'hui autour de 5% d'ADN denisovien. Comme nous, les Européens, on a encore 2% environ d'ADN néandertalien.
Voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout dans le sud-est asiatique qu'on trouve des groupes humains d'Homo sapiens actuels, mais qui présentent un pourcentage important de gènes denisoviens. Alors l'hypothèse qu'on fait, c'est deux hypothèses. D'une part, c'est qu'il y a eu des métissages successifs. Différentes vagues de sapiens se sont métissées avec les Denisoviens. Et puis d'autre part, le métissage a pu avoir lieu dans une époque relativement récente, peut-être même 30 000 ans, vous voyez, 25 000 ans. Et en plus, si les sapiens ont gardé cet héritage denisovien dans leurs gènes, c'est parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle des gènes qui leur étaient favorables pour leur survie. Et ça a été très très bien montré par nos collègues de l'Institut Pasteur et par d'autres généticiens, qu'en particulier, il y a une adaptation à certains pathogènes qu'ont les sapiens qui vivent dans ces régions, qui viennent de Denisova.
À quoi ils ressemblaient, Denisova?
ça va, on le sait hein, maintenant, on a retrouvé des fossiles, on a son génome. Quelle taille faisait-il ?
Alors, il est probable que Denisova, et ça on le sait également par la génétique, était un peu moins homogène que Néandertal. Justement parce qu'il vivait sur un territoire beaucoup plus grand.
Donc il y a des petits et des grands Denisoviens.
Voilà, alors c'est-à-dire que dans le livre, on fait vraiment une différence entre les Denisoviens. Dans l'énigme Denisova, on parle des Denisoviens du Nord et de ceux du Sud, qui étaient sans doute avec un phénotype, une apparence physique différente. Ceux du Nord étaient assez proches des Néandertaliens, petits et trapus, bien baraqués, bien résistants au froid et grands chasseurs. Et on a donc des sites qu'on a identifiés dans lesquels on a des populations qui ont été des populations qui étaient adaptées à une chasse intensive, exactement comme on voit en Europe avec les Néandertaliens. Petits, trapus, peut-être avec des yeux bridés, mais ça c'est de l'imagination, on ne peut pas le dire. Mais par exemple, à Denisova, dans le site même de Denisova, la petite fille qui a été analysée du point de vue du génétique avait la peau sombre et les cheveux noirs. Donc le phénotype, l'apparence physique devait être assez différente de celle des populations qui vivent aujourd'hui.
Mais comme chez nous, ceux qui étaient dans les grottes de Lascaux avaient la peau foncée aussi et des yeux bleus, je crois.
Voilà, c'est-à-dire que par exemple, il y a l'homme de Cédar qui était pendant très longtemps exposé au British Museum comme le représentant des Britanniques d'il y a 10 000 ans. Eh bien, il avait la peau noire et les yeux bleus.
Exactement. Et alors, à quoi ressemblait plus précisément Denisova? Une face assez large, alors, des arcades sourcilières épaisses.
Voilà, on a un profil qui nous est donné par la génétique, par les os qu'on a retrouvés. Alors déjà, on a des individus qui étaient avec des dents extrêmement puissantes, des dents très très grosses, avec, ça devait être des dents de personnes qui mâchaient beaucoup, hein, propres vraiment de véritables, disons, végétariens. Et donc, une puissance musculaire, des mandibules bien carrées, des faces assez larges par rapport à Néandertal qui avait une face en museau, mais toujours un crâne bas et long.
Vous dites alors, une tête en forme de ballon de rugby, voilà, alors que Sapiens, nous on a des têtes en forme de ballon de football.
Voilà, tout à fait, c'est la grande différence. Un crâne de Sapiens est bâti en hauteur, un crâne de Néandertal et sans doute de Denisovien est bâti en longueur. Mais les Denisoviens avaient une face beaucoup plus large que Néandertal et avaient des grandes orbites, des grandes capacités aussi masticatrices. Et la génétique a montré qu'ils avaient des lèvres épaisses. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y avait une distribution des graisses qui était un peu différente de celle qu'on trouve chez Néandertal, mais qu'on trouve chez des populations actuelles, par exemple les populations de l'Amérique latine, les populations des autochtones d'Amérique latine. Donc on a bâti, et dans le livre on a ces magnifiques dessins de ces dessinateurs qui s'appellent Benoît Clarisse, qui a fait exprès pour ce livre ces dessins. On lui a demandé de mettre un peu des caractères qu'on avait découvert par la génétique, ses lèvres épaisses, et donc un aspect qui est un peu des populations du sud-ouest asiatique. Certaines sont un peu comme ça, des visages un peu larges avec des lèvres épaisses.
Sylvana Condamy, c'était des chasseurs-cueilleurs, ils étaient peintres?
Alors, ils étaient peintres, ça c'est difficile à dire. On a retrouvé dans le nord, à côté du Tibet, une grotte dans laquelle il y a des signes, des peintures, mais on n'est pas encore certain que c'est vraiment les Denisoviens qui les ont fait. On pense que c'est peut-être Sapiens. Mais vous savez, il y a tout un... Nous reconstruons beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de travail pour établir le mode de vie, à partir des objets qu'on trouve dans les sites, à partir de ce qu'on voit réellement de leurs outils, comment ils les fabriquaient. Mais il y a quelque chose qui nous reste quand même un peu mystérieux, c'est tout ce qui était fait sur du matériel périssable. Donc peut-être qu'ils peignaient pas dans les grottes, mais qu'ils avaient des écorces d'arbres comme les aborigènes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore à découvrir.
Vous l'avez dit, hein, il reste dans toute une partie de l'Asie de l'ADN denisovien, comme il reste en Europe de l'ADN néandertalien. Néanmoins, quand ont-ils disparu et qu'est-ce qui les a fait disparaître? Est-ce qu'on le sait?
Alors, c'est une autre énigme. Donc, ils ont disparu. Écoutez, au moment où disparaît Néandertal, va disparaître également Denisova, va disparaître des grandes faunes, vont disparaître l'homme de Flores, qui est encore une autre espèce dans une île du sud-est asiatique, l'homme de Luzon. Donc, la cause, elle est assez évidente, c'est l'arrivée d'Homo sapiens qui n'a pas permis à ces populations de survivre en tant que population. Mais elles n'ont pas complètement disparu parce que leurs gènes sont encore dans les populations actuelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était le grand succès de Sapiens? Qu'est-ce qui a permis à Sapiens de pouvoir survivre à des populations qui survivaient depuis des milliers d'années? Il faut voir que l'Homo sapiens qui arrive en Asie et l'Homo sapiens qui arrive en Europe, c'est un chasseur-cueilleur. C'est exactement le même mode de vie économique que Néandertal et Denisova. Alors, qu'est-ce qu'il avait de plus? La démographie, une capacité de coopération plus grande, d'un réseau social plus important? C'est ces questions-là qui restent encore énigmatiques et ce sont ces questions qui doivent être résolues dans, j'espère, le futur.
L'énigme Denisova, c'est signé Sylvana Condemi et François Savatier. Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci Sylvana.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
On a maintenant rendez-vous avec Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de son grand-père.
Europe 1.
Et retrouvez La Voix est libre chaque dimanche de 19h à 20h, animé par Nicolas Caro, romans, essais, bande dessinée, littérature jeunesse. Nicolas met les livres à l'honneur sur Europe 1. Ce dimanche, il reçoit Hervé Le Tellier, le prix Goncourt 2020, qui vient présenter son nouveau livre, Le Nom sur le mur, aux éditions Gallimard. Et Nicolas vous emmène également dans la bibliothèque de la navigatrice Isabelle Autissier.
Europe 1. C'est arrivé demain. Frédéric Tadie.
Bonjour Nicolas Pagnol.
Bonjour.
Vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol et son ayant droit. C'est vous qui avez retrouvé une pièce inédite de votre grand-père, Gabi ou La Belle et l'Argent, qui vient d'être adaptée en bande dessinée par Véronique Grissot et Luc Brahi chez Michel Lafon. On va en parler. Mais on célèbre actuellement le 50e anniversaire de la mort de votre grand-père. Est-ce que ça se passe comme vous l'espériez?
Ah oui, et même bien mieux. C'est-à-dire qu'il y a des commémorations, bien sûr, en région sud, dans toute la France et aussi à l'international. Là, je reviens du Brésil où je donnais une série de conférences. Plus tard, je pars à Budapest. Il se passe quelque chose à Santiago aussi. Et une très, très belle programmation en France, rétrospective à la Cinémathèque française, au Festival international du film de La Rochelle, concert symphonique à Aubagne, de toutes les musiques de films depuis 1931 avec Grosmont jusqu'à le temps des secrets. Je suis vraiment très content, c'est un très bel hommage.
Alors pour moi, il y a trois Pagnols, hein. Je l'ai dit à Carinane il y a 15 jours, c'est elle qui a écrit Marcel Pagnol, un autre regard. Et j'ai envie de vous poser la même question. Il y a pour moi le Pagnol trentenaire, qui triomphe au théâtre avec Topaz, Marius et Fanny. Il y a le Pagnol quadragénaire, qui se révèle un grand cinéaste, il va réaliser des films pendant une vingtaine d'années. Et puis il y a le Pagnol sexagénaire, qui devient écrivain et fait encore un triomphe, mais cette fois avec ses souvenirs d'enfance, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Ces trois Pagnols, on a tendance à les confondre et pourtant quatre décennies les séparent. Il y a un jeune homme, un homme mûr, un vieux monsieur. Est-ce que c'est le même?
Oui. Oui, je pense que c'est le même. C'est le même homme épris de liberté. S'il y avait une césure à faire, c'est entre le Pagnol de Les Marchands de gloire, Jazz Topaz, c'est ses œuvres littéraires de jeunesse, et le Marcel Pagnol qui est clos avec Marius et un retour à sa Provence. Elle est là, la vraie césure. À partir de Marius 1929, je crois qu'on a le même Pagnol dans la veine de son inspiration et qui gardera toute sa vie, cet esprit de liberté, d'avancer à contre-courant, d'imposer sa chance et de réussir en tout ce qu'il touche.
Quand il est élu à l'Académie française en 1946, il a 51 ans, c'est 9 ans avant Jean Cocteau, et c'est le cinéma qui entre à l'Académie française. Il n'était pas encore considéré comme un écrivain à ce moment-là.
Non, il était considéré comme un dramaturge, un très grand dramaturge, et un cinéaste dilettante. Il faudra attendre les années 60 avec un fameux article de Truffaut-Godard pour réhabiliter, j'ai envie de dire, Marcel Pagnol.
Un grand cinéaste.
En tout cas, en France, il était considéré déjà à l'étranger. Mais effectivement, c'est l'Académie qui reçoit pour la première fois un cinéaste, et Marcel sera le premier à faire entrer les caméras dans l'Académie. C'est la première fois que nous verrons le cérémonial d'investiture d'un académicien.
Exactement. Alors, à 60 ans, après un quart de siècle passé dans le cinéma, il revient au théâtre avec deux pièces, Judas et Fabien, qui ne marchent ni l'une ni l'autre. C'est à ce moment-là, je crois, qu'il écrit Gabi ou La Belle et l'Argent, cette pièce inédite qui sort maintenant en bande dessinée.
Oui, je la date à peu près à cette époque-là, dû au ton de la pièce, qui passe en rappeler Fabien ou même Judas, un ton un peu grivois, et aussi par une datation parce qu'il fait référence à un modèle de caméra et à Nice Matin. Nice Matin qui est créé en 45, cette caméra sort en 44. Le retour au théâtre de Marcel se fait entre 51 et 55. Donc voilà, je pense que c'était la troisième pièce qu'il aurait dû monter, qu'il n'a pas monté, mais fort heureusement pour nous tous, parce que cela donnera par la suite, ça lui donnera le temps de se pencher sur ses souvenirs et de rédiger les souvenirs d'enfance. Et
effectivement, sinon il serait redevenu probablement l'auteur de théâtre fêté qu'il avait été quand il avait la trentaine.
Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Mais je pense que vous l'avez vu à la lecture du roman graphique, nous ne sommes absolument pas dans un Marcel Pagnol chantant sa Provence natale.
Non, c'est très différent. Alors moi, c'est ce qui m'a frappé tout de suite, ça se passe dans un milieu très aisé, sur la Côte d'Azur, ce qui est assez unique dans l'œuvre de Marcel Pagnol.
Oui, on peut se référer à Topaz pour ce rapport à l'argent ou à un milieu assez aisé. On pense à Castelbénac, le conseiller municipal corrompu, où on est marchand de gloire. Et ce rapport à la femme aussi, qui n'est pas sans rappeler La Prière aux étoiles. Une femme libre, une femme avec des défauts, autant de défauts qu'un homme en définitive, et qui est la complice de son père, qui est une sorte de vieil escroc, un David Niven désargenté et alcoolique. Ça n'a rien à voir avec le Pagnol auquel nous sommes habitués.
L'héroïne est une jeune femme entretenue, sans scrupules, entourée d'escrocs et de margoulins, qui en veut à la fortune de ses amants. On est très loin, effectivement, des héroïnes habituelles de Marcel Pagnol, qui sont des femmes idéalisées, souvent filles-mères et toujours issues des milieux populaires.
Oui, tout à fait. Il avait dû faire le tour de cette thématique, ou peut-être a-t-il tout simplement voulu se réinventer au théâtre après avoir abandonné le cinéma à la fin des années 50, montrer qu'il était capable d'autre chose, vouloir faire éclater le carcan de la Provence, enfin si on peut appeler ça un carcan, mais en tout cas, voilà, vouloir montrer qu'il était capable d'autre chose. Et je pense aussi que l'âge lui avait donné une autre vision du monde, ses différentes expériences. Il avait habité à Monaco, à Paris, mais ce n'est pas sans rappeler Topaz encore une fois, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive à Paris, jeune professeur d'anglais, nourri par une éducation paternelle très stricte, il voit tous ces gens qui font des affaires, politiques, ces hommes d'affaires, et il est émerveillé, et en même temps il s'aperçoit que l'éducation qu'il a reçue ne l'a pas préparé à affronter la vie, en tout cas la vie qu'il pensait mériter avoir, c'est-à-dire celle d'un grand auteur dramatique.
On peut penser aux Spoons aussi.
On peut penser aux Spoons, tout à fait. Le Spoons qui est assez autobiographique, parce que Marcel se rêvait grand auteur dramatique, sa première pièce, Catulle, en vers, d'origine, enfin d'inspiration classique, qui de son aveu même n'était pas très bonne. Et il arrive à Paris, il écrit deux pièces assez sérieuses, l'une avec Paul Nivoy, Les Marchands de Gloire.
Il faut rappeler qu'à l'époque, il est professeur d'anglais à Condorcet.
Tout à fait. Il est professeur d'anglais à Condorcet. Et il va se découvrir une veine comique avec Topaz. Et d'un coup, ça marche. Donc il se retrouve un petit peu dans la situation d'Irénée, qui part pour être un grand tragédien et qui se révèle être un grand acteur comique, pensant que son oncle allait l'admonester, parce qu'on ne met pas le nom de famille à côté de Pantalonnade. Bah, peut-être que Marcel aussi avait un peu honte vis-à-vis de son père.
Irénée, c'est évidemment Fernandel, Michel dans le Spoons. Pourquoi les pièces qu'il a écrites après la guerre n'ont-elles pas marché? Judas et Fabien, je les connais pas. J'ai lu tout Marcel Pagnol, mais ces deux-là, je ne les connais pas. Qu'ont-elles de particulier? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas?
Judas, c'est une tentative de réhabilitation de Judas, où Marcel dit que le Christ a autoréalisé sa prophétie en intimant l'ordre à Judas de le trahir pour 30 deniers. Forcément, les catholiques l'ont mal pris. Dans la pièce, il y a quelques références. La communauté juive l'a traité d'antisémite. Et puis, le premier rôle, Raymond Pellegrin a fait une syncope lors de la première. Donc, on a pris la doublure qui est tombée malade. Donc, on a pris le troisième remplaçant. Bon, et tout ça s'est effondré au bout de quelques semaines. Et Fabien connaît on vient de le remonter avec une compagnie du Sud qui s'appelle Dans la Cour des Grands. Je leur fais un peu de promotion. Ce sont mes amis, je les aime bien. Et Fabien a beaucoup de succès aujourd'hui, mais c'était pas une pièce pour son époque, parce qu'il y est question de ce qu'on appelle aujourd'hui le pervers narcissique, la manipulation, le droit des femmes, la place de la femme, la place de l'obésité, de la difformité aussi, parce qu'il y a des monstres, ça se passe dans un cirque, et il y a pas de héros sympa dans Fabien, ils sont tous tarés, donc il n'y avait pas d'identification possible du public.
C'est un peu le cas aussi dans Gabi, la belle et l'argent, elle est absolument épouvantable, et la plupart de ceux qui l'entourent aussi. Comment l'avez-vous retrouvé cette pièce? Parce que ça doit être à la fois magique et exceptionnel pour le petit-fils, l'ayant droit, que de retrouver une pièce inédite de son grand-père. Où? Comment?
Chez ma grand-mère, Jacqueline Pagnol, Manon Dessources, qui habitait toujours dans l'hôtel particulier parisien où ils ont été tellement heureux, si heureux pendant des années. Et je faisais un petit état des lieux des archives au grenier. Enfin, énormes archives, plusieurs pièces remplies de cartons de manuscrits, et je suis tombé sur cette pièce, une partie du manuscrit et trois tapuscrits, mais ma grand-mère refusait que ces archives sortent de chez elle. Elle considérait, enfin, je pense qu'elle devait se sentir en sécurité, que son mari était un petit peu à la maison. Et suite à son décès, en 2016, s'est posée la question, qu'allons-nous faire de Gabi? Et avec Elsa Lafont, nous avons décidé d'en faire un roman graphique parce que je ne me sentais pas la responsabilité de publier le texte intégral d'une œuvre que mon grand-père n'avait pas publiée de son vivant.
On peut le comprendre, effectivement. Merci Nicolas Pagnol. Gabi ou la belle et l'argent, ça vient donc de sortir en bande dessinée par Véronique Grissot et Luc Brahi chez Michel Lafont.
Merci à vous. Europe 1.
C'est arrivé demain et parvenu à son terme. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, c'est le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1.
Europe 1, 9h, 10h. C'est arrivé demain.